Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous. En ce mardi 24 mars, vous écoutez votre émission qui vous parle de voyage, de nature, de science. Mais moi, je suis Michel Audet, puis je suis de retour avec vous.
Bonjour, Michel.
J'espère qu'on va tenir le coup.
Bonjour,
la
Michel.
Voix a été déficiente pour un certain temps. Écoutez, je suis en compagnie de mes fidèles compagnes, de mes complices, quoi. Et André-Étienne.
Bonjour, Michel.
Bonjour. Et Marie Lalonde.
Bonjour, Michel.
Alors, je suis content de vous retrouver.
Nous aussi, on est content de te retrouver.
Bien, grand plaisir. André.
Oui.
De quoi sera-t-il question aujourd'hui?
Alors, moi, je vais vous présenter deux articles, donc. L'un qui va être un ange gardien contre l'Alzheimer. On aimerait vraiment ça, que ça soit un vrai ange gardien. Et un autre article sur la surmortalité de la forêt amazonienne.
Bien.
Pas très joyeux.
Bien. Marie?
Alors, moi, je vous présente des recommandations de scientifiques à propos des changements climatiques. Dans un premier temps, et ensuite du travail de chercheurs dans les égouts.
Wow!
C'est particulier.
C'est assez spécial. De mon côté, j'avais amorcé un dossier qui s'appelait l'Amérique submergée. Ah, j'ai été interrompu. Alors, je vais poursuivre, mais avec une autre dimension particulière à ce dossier-là. Et j'avais commencé aussi à vous parler des volcans, la tournée des volcans en Italie. Oui. Et je vais poursuivre sur cette lancée. Alors, ne quittez pas.
Alors, je vous présente un article sur les changements climatiques qui a été écrit par Alexandre Shields et publié dans Le Devoir le 19 mars dernier. Le titre, c'est « Le Canada doit réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 » et c'est clamé ça par 60 chercheurs. Prenant acte des ratés du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, 60 chercheurs canadiens ont publié jeudi dernier un rapport qui propose diverses mesures pour le moins ambitieuses afin de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre au pays. Le document, intitulé « Agir sur les changements climatiques, solutions des chercheurs canadiens », conclut que le Canada doit se donner comme objectif de réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre, ou on dit aussi GES, et ce, d'ici 2050.
Il me semble que 80%, ça me semble un petit peu ambitieux. Est-ce qu'on a des moyens au moins pour y arriver?
Alors, ils en proposent, oui. Pour y parvenir, les chercheurs suggèrent une série de mesures qui auraient un impact majeur sur l'industrie pétrolière. Ils proposent d'abolir ainsi toutes les subventions dont elles bénéficient, mais aussi d'établir, à l'échelle du pays, un prix sur le carbone. Une idée très éloignée des politiques du gouvernement Harper qui a rejeté à plusieurs reprises l'idée d'imposer des contraintes d'émissions à l'industrie des énergies fossiles. Selon ce que font valoir les membres du collectif Dialogue pour un Canada vert, il faudrait en outre remplacer les carburants fossiles par l'électricité dans les secteurs du transport, du bâtiment et des industries, tout en appliquant des programmes d'efficacité énergétique. Autre proposition, qui pourrait d'ailleurs profiter au Québec, encourager l'établissement d'un réseau électrique intelligent permettant une connexion interprovinciale. Les provinces productrices d'électricité pourraient alors vendre aux provinces voisines.
Bonne idée.
C'est une bonne idée, hein? L'instigatrice et porte-parole du groupe, la professeure Catherine Potvin de l'Université McGill, dit « Ce rapport vise à proposer une voie à suivre pour le Canada, à stimuler un débat public et à appuyer la prise de décision sur l'atténuation des changements climatiques avant la conférence Paris-Climat de l'ONU en décembre 2015, qui est un rendez-vous crucial avec l'histoire que le Canada ne doit pas rater. Pour le moment, le Canada est toujours en voie de rater complètement ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, pourtant revues à la baisse par les conservateurs. Un rapport publié en décembre dernier par Environnement Canada le confirme. Ainsi, en 2020, les émissions du pays totaliseront 727 millions de tonnes. Pour respecter ces engagements, Ottawa devrait les ramener à 611 millions de de tonnes avant la fin de la décennie.
Oui, c'est ambitieux.
Hein? Oui, c'est ambitieux, ça, quand même. Or, au lieu de diminuer, les émissions repartiront à la hausse au cours des prochaines années.
Et ça, c'est inquiétant.
Oui, ça, c'est inquiétant.
Les pétrolières sont à blâmer?
Oui, alors pourquoi on dit ça? C'est l'industrie pétrolière qui sera la grande responsable du phénomène. Uniquement pour les sables bitumineux, les émissions devraient passer de 20 à 75 millions de tonnes. La production des sables bitumineux en pleine croissance doit dépasser les 3 millions de barils par jour en 2020. L'inaction canadienne lui a valu de nombreuses critiques, notamment du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. Il faut dire que la communauté scientifique est d'avis qu'il faudrait limiter la hausse globale à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle par rapport au début de l'ère pré-industrielle. Pour y parvenir, il faudrait que l'humanité se dote d'un objectif de zéro émission de gaz à effet de serre au plus tard en 2100, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Et il y a notre ami Barack Obama aussi qui n'est pas très heureux des émissions des gaz à effet de serre, des sables bitumineux particulièrement. Hein?
Oui, tout à fait. En fait, les niveaux actuels des émissions mondiales de gaz à effet de serre conduisent la planète vers une hausse des températures de 4 à 5 degrés Celsius à la fin du siècle. Et un tel scénario serait tout simplement catastrophique pour le maintien de la vie sur Terre. Alors, c'est un petit peu déprimant, et je rappelle que c'était un article sur les changements climatiques, mais bon, il y a quand même une volonté de la part des chercheurs et des recommandations concrètes, ce qu'on peut retenir.
On a vu le réchauffement de la planète ce matin, ce que ça donnait.
Exact, oui, on a vu ça ce matin. Article écrit par Alexandre Shields et publié dans Le Devoir le 19 mars.
J'avais amorcé un dossier sur l'Amérique submergée. Bon, un petit rappel, j'avais parlé de Norfolk, une base importante américaine, hein, où vous avez Langley, entre autres choses. Et si vous vous rappelez, il y a des maisons sur pilotis à cause des vagues d'invasion de la mer. Et on a commencé à exproprier en donnant 130 000 $ pour chacune des maisons à Norfolk. Mais les gens restent sur place. À New York, on s'en rappelle le 29 octobre 2012, Sandy, qui a envahi la ville de New York. Hein, c'était assez terrible. Ouais. Et les gens, particulièrement à Oakwood Beach, si vous vous rappelez bien, avaient décidé d'abandonner leur maison, ce qui est exceptionnel. Mais c'est qu'un an auparavant, il y avait eu l'ouragan Irène.
C'est ça.
Donc, il y en avait assez. Mais ce qui est inquiétant à New York, c'est que même Manhattan a été submergé. Alors, ça devient inquiétant. De notre côté, sur la côte nord, il y a sept îles. Cette île est vulnérable particulièrement en raison de ses plages. Mm-hmm. Cette île est toute la côte nord. Donc, les plages sont vulnérables. Ce qu'on a fait particulièrement, c'est ce qu'on appelle de l'enrochement. Donc, combler les plages avec de la roche. Ouais. Ce qui, apparemment, selon les spécialistes, c'est pas du tout une solution. Mmh. Et c'est parce qu'il y a toutes sortes de raisons un peu scientifiques, mais c'est pas une raison. Donc, la question qu'on peut se poser, suite à cette expérience-là, est-ce qu'on arrive à la fin de nos plages? Et c'est Charles Côté qui nous en parle dans la presse du 19 février. Alors, ben, on sait que nos plages, les plages dans le monde attirent des millions de visiteurs. Hein? Mais on peut se poser la question avec la hausse des océans. Est-ce que les plages sont condamnées partout où les humains essayent supposément de les protéger? Et ça, c'est l'avertissement que lance un professeur américain de sciences de la Terre et des océans qui a écrit un livre qui s'appelle « The Last Beach ». Hein? C'est un titre évocateur.
Oui,
hein? Et ce bonhomme-là, il a dû venir au secours de ses parents qui vivaient sur la côte du Mississippi. Et leur maison avait été lourdement endommagée par l'ouragan Camille, un autre ouragan. Et ça l'a amené à réfléchir sur la dynamique côtière. Et rapidement, il est apparu que ce qu'on pouvait observer sur les côtes des États-Unis, c'était de la pure folie.
Ah, la pure folie, pourquoi?
Ben, parce que partout sur les plages, on ajoutait des murets pour protéger. Pour protéger les bâtiments qui étaient construits le long des plages. Et en faisant ceci, on condamnait la plage à disparaître parce qu'elle était coupée de sa source de sable. Mmh. Parce que la plage, elle se déplace, ben oui. Mais elle continue toujours à être une plage. En construisant un muret, on enlève totalement la plage. Et aujourd'hui, construire des défenses en dur, des murets sur une plage, c'est interdit dans la plupart des États, la plupart des endroits, même s'il y a des gens qui réussissent quand même à contourner les interdictions.
Qui contournent l'interdiction, parce qu'il y en a toujours quelques-uns.
Ben,
j'imagine que ça va être la réponse.
On a un exemple. En Caroline du Sud, il y a un muret qui s'est effondré sur la plage. Parce que les murets vont s'effondrer avec le ressac. Ben, hein? Bon, et même, il protégeait des gens qui étaient très riches. Est très important. Vous vous en doutez, alors. Alors, même si une loi très stricte qui l'interdit, ben les gens sont allés devant la législature et ont obtenu une permission spéciale.
Ben oui,
certains.
Voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour protéger les plages? C'est la question qu'on peut se poser. Rien de mieux que le muret. Ah, depuis les années 70, on utilise l'ensablement, la recharge de sable. Mais c'est une solution qui dure beaucoup moins longtemps que les ingénieurs côtiers l'avaient affirmé. Et pratiquement tous les projets de recharge aux États-Unis depuis 40 ans ont eu une efficacité moindre que ce qu'on avait prévu. Et dans bien des cas, c'est à recommencer à tous les 3 à 5 ans, ce qui est très, très peu. Hein?
Ben oui.
Et avec la hausse des océans, c'est une solution qui va coûter de plus en plus cher. Exemple, en Caroline du Nord, on est déjà rendu à 10 millions de dollars par mille. Je dis mille parce qu'aux États-Unis, il y a 1,6 km.
Ouais.
10 millions. Vous imaginez les plages qu'on a aux États-Unis? Et c'est sans parler des effets qui sont néfastes sur l'environnement.
Bon.
C'est néfaste parce qu'on détruit l'environnement, parce qu'il faut aller le puiser quelque part, ce sable-là.
Ah oui, on a déjà...
On détruit un autre endroit, où il n'y a probablement pas d'édifice.
On le détruit quand même. Pour Saint-Paul, hein?
Est-ce que les plages sont fragiles? Les plages ne sont pas fragiles, elles sont presque indestructibles. Ce sont les gens qui disent vouloir les protéger qui les détruisent.
Les fragilisent.
Pour s'adapter à la hausse des océans, les plages ont besoin de reculer, de se déplacer, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, pour cela, elles doivent avoir accès à leur source de sable qui se trouve en retrait et des tempêtes aussi pour déplacer cette plage-là. Mais les gens qui disent vouloir protéger les plages veulent en fait protéger les bâtiments qui sont construits. On prévoit environ 1 mètre, on en parlait, 1 mètre de hausse des océans d'ici 2100. Mais les effets vont se faire sentir bien avant. C'est pas 1 mètre d'un coup, ça. 30 ou 40 ans. Est-ce que vous savez le pire endroit au monde pour les plages? Le pire endroit au monde?
Au monde,
c'est la Floride. La Floride, sur 160 kilomètres. OK? Il y a des centaines de tours d'habitation sur la plage. Miami, Allendale, là, ça suit tout le long, Pompano, etc. Qu'est-ce qui va arriver avec 1 mètre de hausse des océans? Vous imaginez? On n'a plus de plage.
C'est catastrophique. Terminé.
Et tout ce qui est vers le sud, ce qui est Everglades et tout ça, qui est très, très, très bas, va être totalement envahi. Alors, pour voir une vraie plage dans son état naturel, ben, peut-être qu'il va falloir se rendre en Namibie, où il y a 800 000 de côtes.
Destination
Namibie pour avoir une plage. Alors, est-ce qu'on est vers la fin des plages? Ben, la question se pose. Hein? C'est Charles Côté qui nous l'a posé dans la presse du 19 février.
s'est connu. Si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu. J'avais mon bras qui s'appuyait sur ton bras, et le ciel de mai semait des bouquets de rêves. Un ciel si bleu, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais peur que tant de joie soudain s'achève. Première fois, j'ai compris combien je t'aimais.
Bien, merci beaucoup Jean-Sébastien de cette très jolie introduction pour l'article que je vous propose. C'est une chanson qui s'appelle « N'oublie jamais ». Et puisque je vais vous parler de l'Alzheimer et de ce qui serait un ange gardien contre l'Alzheimer. On aimerait ça, hein?
Oui, on l'attend.
Oui, on l'attend.
Ben, pas c'est l'Alzheimer, pas encore l'ange gardien.
Oui, j'espère. Ben, là, ce qu'il y a, c'est que ce sont des chercheurs, c'est un groupe de chercheurs qui auraient démontré qu'en fait, la maladie d'Alzheimer, elle est liée à beaucoup de choses, mais aussi à un problème de cholestérol.
Ah bon?
Pour moi, quand j'ai découvert cet article-là, je suis tombée des nues parce que le cholestérol, à l'heure actuelle, il n'a pas forcément bonne cote.
Ah non, vraiment.
Mais donc, dans cette théorie, ils expliquent que c'est un gène qui réduit de moitié le risque de démence et qui pourrait retarder l'apparition des symptômes. Alors, donc, c'est un article qui est tiré de Québec Science du mois de janvier-février 2015 et qui est écrit par Marine Corneau. Ce qu'elle dit, c'est que, bon, et puis elle reprend les mots du chercheur qui dit que nous ne sommes pas tous égaux à la loterie génétique puisque le quart des Nord-Américains hérite d'une petite variation qui est nichée au milieu d'un gène qui protège contre la maladie d'Alzheimer. Et cette variété du gène, le gène est appelé HMGCR. Retenez ça parce qu'on va en reparler encore après, hein. Et ce gène réduirait de 30 à 50% le risque de développer la maladie.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette variance génétique?
Ah oui, 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 bien sûr, je peux l'expliquer. Là, c'est justement ce chercheur qui s'appelle Jude Poirier l'explique. Et il dit qu'en fait, si on possède le même kit de gènes, chacun de ceux-ci existe en plusieurs versions selon les individus. Et puis, et il compare donc le groupe de gènes à une boîte de chocolat. Il dit qu'on peut dire que la composition de la boîte varie d'une personne à l'autre. Parce que, par exemple, dans la tienne, Marie, il pourrait y avoir du chocolat blanc. Et puis, dans la mienne, on peut trouver un praliné. Mmh. Donc, chaque boîte constituant ainsi un variant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que certaines personnes ont des yeux bleus ou des yeux verts, des cheveux bruns ou des cheveux roux. Alors, donc, ce qu'ils ont démontré, c'est que donc, cet atout génétique c'est pas une parade absolue contre la démence, hein, mais par contre, ça permet de retarder de 4 ans en moyenne l'apparition des symptômes. Et c'est particulièrement précieux parce que on sait qu'après l'âge de 85 ans, 45% des gens développent l'Alzheimer. Donc, si on arrive à retarder de 4 ans l'apparition de la maladie, c'est quand même déjà une prouesse. Même chez les personnes qui commencent à souffrir de légers troubles de la mémoire vers le stade de démence, c'est quand même intéressant. Alors, ce qu'il a fait avec son équipe, ils ont suivi au total 1600 patients pendant 3 ans. Et c'est une étude d'ailleurs qui a été publiée dans un journal du groupe Nature. Il dit que on pourrait croire que pour les 3/4 d'entre nous qui ne possédons pas cet ange gardien génétique, la nouvelle n'est pas très importante. Mais par contre, elle est quand même, et lui, il dit que c'est une erreur, parce qu'elle permet de renforcer la théorie que défend Jude Poirier depuis des années, selon laquelle l'Alzheimer serait clairement lié à un problème de cholestérol. En effet, le gène HMGCR en question régule la production du cholestérol dans le cerveau. Sur 10 facteurs de risque génétiques les plus importants associés à la maladie d'Alzheimer, il y en a 6 qui ont un lien avec le cholestérol. Donc, il est logique qu'un gène de protection lui soit aussi associé au cholestérol. Alors, bon, le cholestérol, on disait tout à l'heure, il n'a pas très bonne réputation, mais il est un constituant essentiel des cellules. Et il intervient notamment dans le développement des synapses, qui sont les points de contact de communication entre les neurones, et dans la fabrication de la gaine qui entoure les fibres nerveuses. Mmh. Alors, ce n'est pas un hasard si le quart de tout le cholestérol de l'organisme est concentré dans le cerveau, dit-il. Parce que lorsque la maladie d'Alzheimer débute, elle détruit de nombreux neurones. Les neurones en question, ils se reconnectent donc les uns aux autres et parviennent à compenser la perte, du moins pendant un certain temps. Mais pour se reconnecter, ils ont besoin de cholestérol. Mm-hmm. Et le variant génétique qui est mis en évidence par l'équipe favorise indirectement l'absorption du cholestérol au sein des neurones. Le résultat, c'est que les neurones sont plus aptes à former de nouvelles synapses et à contrer les effets de la destruction neuronale.
Oui, mais on parle aussi de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Hein?
Oui, c'est vrai aussi.
Il y a deux constituantes. Ben,
probablement que celui-ci, c'est celui qui est considéré comme le bon cholestérol.
J'espère que c'est ça.
Je ne sais pas, il n'en parle pas dans l'article de la différence entre les deux. Mais selon donc ce généticien, cette découverte est quand même un pas concret vers la prévention de la maladie. Hein? On ne parle pas de guérison ni quoi que ce soit. Parce que ce variant est tellement puissant qu'il contrebalance totalement l'action du principal facteur de risque génétique, l'APOE4, qui est un gène lié, une fois encore, au transport du cholestérol dans le cerveau. Alors, donc, l'APOE4, il augmente de 6 à 22 fois le risque d'Alzheimer. Ils ont examiné, pour ce faire, des gens porteurs de l'APOE. Et ils ont découvert que ces porteurs possédaient une version particulière du gène dont on parlait au début, HMGCR, qui annulait l'effet de leur gène nuisible, ce fameux APOE4. Et en améliorant la disponibilité du cholestérol au sein des neurones, ce bon variant a carrément l'effet inverse de l'APOE qui entraîne une réduction de 50% de transporteurs de cholestérol dans le cerveau. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même un vieux médicament qui s'appelle le Probucol qui remplit cette mission. Et le mécanisme d'action du Probucol atténue d'une part le facteur de risque qu'est cet APOE4 et d'autre part mime l'effet protecteur de l'HMGCR. Donc, c'est un coup double. Alors, on voit que c'est quand même, y a quand même un espoir. Il y a un essai qui est en cours sur 60 personnes et on fera un suivi très serré, évidemment. Alors, c'est un article qui est donc extrait de Québec Science du mois de janvier-février, écrit par Marine Corneau.
Alors, une bonne nouvelle pour les éléphants. Le Kenya brûle 15 tonnes d'ivoire. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a fait brûler le 3 mars à Nairobi 15 tonnes d'ivoire, le plus important volume jamais incinéré en Afrique, et promis de détruire d'ici fin 2015 l'ensemble du stock d'ivoire du Kenya, estimé à 100 tonnes. Le kilo d'ivoire se négocie environ 2 100 $ en Chine et la quantité incinérée, c'est 15 tonnes, représente une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars. Le Kenya est non seulement un haut lieu du braconnage de l'éléphant d'Afrique, mais aussi un important point de passage du trafic de l'ivoire prélevé sur les pachydermes abattus dans la région. L'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages doivent être rendus inutilisables partout dans le monde, a déclaré au Parc national de Nairobi le président Kenyatta.
Bonne nouvelle pour les automobilistes, on a de moins de risques de mourir au volant maintenant. La sécurité automobile s'est tellement améliorée depuis l'année 2009 que le risque de mourir au volant d'un véhicule a été réduit du tiers par rapport au véhicule antérieur. Sans surprise, les premiers de classe se retrouvent parmi les VUS. Véhicules plus lourds. Et vous savez que maintenant, c'est les véhicules qui se vendent le plus. Oui. C'est 30 % actuellement. Et les trois pires cancres, ben, c'est les petites voitures. Hein. Une mortalité moyenne réduite du tiers en seulement 3 ans, c'est une amélioration quand même importante, immense. Cependant, l'écart entre les voitures les plus sûres et les moins sûres, l'écart est très large. Et parmi les 9 véhicules qui ont eu un taux de mortalité de 0 conducteur, il y a 6 VUS. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, d'une certaine façon. Véhicule plus sécuritaire.
Tout à fait.
Alors, c'est ce dont je vous parle, c'est une capsule funéraire qui nous transforme en arbre après notre décès. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée. Ce sont des designers italiens qui proposent de remplacer le cercueil par un œuf géant fait de matériaux modernes comme l'amidon qu'ils enterrent. On place un plan d'arbre par-dessus et le plan d'arbre puisera ses ressources dans l'œuf.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, des chercheurs dans les égouts. Wow! Oh, ouais. Quand les eaux usées trahissent nos habitudes.
J'aimerais pas ça comme travail.
T'aimerais pas ça?
Non,
hein?
Pas vraiment.
Moi non plus, je pense, non. Alors, écoute, bon, tu vas constater.
OK.
Un article de Philippe Mercure, publié dans la section Sciences de la Presse Plus le 15 mars. Alors, ça commence dans une usine d'épuration d'une ville du Québec qui, pour des raisons de confidentialité de la recherche, ne peut être nommée. Sébastien Sauvé, qui lui, on peut le nommer, qui est professeur de chimie environnementale à l'Université de Montréal, attrape une longue perche munie d'un récipient de plastique qu'il plonge dans un grand bassin d'eau brunâtre. Une puanteur qui prend au nez flotte autour. Il faut avoir ses vaccins à jour pour faire ça et ce n'est pas une blague. Monsieur Sauvé n'est pas ici par plaisir. Avec son collègue André Lajeunesse, expert en chimie criminalistique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il mène un véritable travail de détective.
Mais qu'est-ce qu'il cherche?
Ce que les deux hommes cherchent dans les eaux boueuses brassées par les machines de l'usine d'épuration, ce sont des traces de cocaïne, d'ecstasy et de fentanyl, un opioïde de synthèse illégale. Ils cherchent à estimer le niveau de consommation des drogues dans la population, tant pour des raisons de santé publique que pour recueillir des renseignements qui serviraient à la lutte contre le crime. La personne qui avale un comprimé d'ecstasy un vendredi soir n'y pense évidemment pas. Mais lorsqu'elle se rendra aux toilettes le lendemain, elle laissera dans ses urines et ses selles une preuve, sans équivoque, de sa consommation. Même chose pour le cocaïnomane, le fumeur de marijuana et le consommateur d'opioïdes. Ces traces finissent dans les égouts, puis à l'usine d'épuration où les chercheurs les détectent. Ils disent que leur modèle n'est pas parfait et comporte plusieurs sources d'incertitudes. Les intempéries, par exemple, et la température de l'eau limitent la précision de leurs estimations. Mais il reste qu'on peut avoir une bonne idée du nombre de doses de chaque substance qui ont été consommées. Dans la ville en question, Les chercheurs ont déjà montré que la consommation de cocaïne et d'ecstasy correspond au taux qui prévaudrait dans les autres villes nord-américaines. Le fentanyl, toutefois, ne semble pas y avoir fait son apparition à grande échelle. Dans l'univers par définition secret et peu fiable de la drogue, cette façon d'obtenir des estimations quantitatives pourrait changer bien des choses. Les chercheurs affirment avoir eu des discussions à ce sujet avec la Sûreté du Québec. Il n'est aucunement question, cependant, d'aller traquer l'eau qui sort des toilettes d'un citoyen particulier. On peut se rassurer.
Merci quand même. Big Brother, ça suffit.
C'est ça.
Ça me soulage beaucoup.
Les chercheurs n'en ont pas les moyens et c'est pas ça l'objectif. Ce sont les grandes tendances qui les intéressent. Ils croient que les renseignements pourraient éventuellement servir à évaluer l'efficacité des rafles policières, ou à comprendre de quelle façon se répandent les nouvelles drogues introduites sur le marché.
Est-ce que c'est particulier chez nous ou est-ce qu'on fait ça ailleurs, aux États-Unis?
Fait ça ailleurs. Les chercheurs québécois ne sont pas les seuls à fouiller les eaux qui coulent dans les égouts afin de comprendre ce qui se passe au-dessus. Dans la région de Boston, de drôles de scènes se déroulent régulièrement depuis quelques mois. En pleine rue, des gens s'attroupent devant les bouches d'égouts et en soulèvent les couvercles.
Étrange.
Puis ils plongent des pompes encore plus étranges dans les eaux boueuses et en remontent le contenu dans de grosses bouteilles. Ces gens sont des chercheurs du MIT qui participent au projet Underworlds, sans doute la plus ambitieuse initiative du genre actuellement en cours sur la planète. L'un des leaders de ce projet dit à la blague « Non, on n'a pas rencontré de crocodiles dans les égouts », mais il trouve que c'est assez différent de ce qu'ils font habituellement en recherche.
Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils en ont déjà trouvé des crocodiles,
déjà trouvé,
à New York en particulier.
Oui.
Ah,
ouais?
Ah ben oui.
Mais là, c'est pas ça qu'ils trouvent.
Ah, c'est autre chose.
Des drogues illégales aux médicaments, en passant par les virus de la grippe, de la polio, les polluants, les biomarqueurs du diabète, de l'obésité. Les chercheurs du MIT suivront un grand nombre de variables dans les eaux usées afin de comprendre les habitudes et les comportements des gens qui les produisent. Comme les drogues illégales, les médicaments et les aliments que nous consommons laissent des traces dans nos urines et nos selles. Une grande quantité de matériel génétique est aussi évacuée dans les toilettes. On croit que les eaux usées peuvent ouvrir tout un nouveau monde d'informations sur la santé et les comportements humains. Les données en temps réel peuvent être utiles pour les décideurs, aux autorités de santé publique, aux urbanistes ou aux chercheurs. Les scientifiques prévoient étudier des lots d'environ 100 habitations et veulent recouper les informations avec les indicateurs socio-économiques. Ils espèrent pouvoir ainsi suivre l'évolution de la santé des habitants ou prédire l'évolution des épidémies. L'an dernier, lors de tests préliminaires, ils ont pu détecter le virus de la grippe juste avant la saison. Ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Après les tests au MIT, le projet Underworlds se déplacera au Koweït où des analyses à grande échelle seront effectuées. Nous n'en sommes pas là, mais on peut penser qu'un jour, nous aurons des toilettes intelligentes qui analyseront nos rejets et détecteront les virus avant même que nous ne tombions malades.
Oui, ça peut être inquiétant un peu aussi.
Ouais. Big Brother, oui, c'est un côté
Absolument.
Ou l'autre.
Quand Big Brother a dit dans nos toilettes. Ça m'inquiète un peu.
Je rappelle que c'était un article de Philippe Mercure, publié dans la section Science de la Presse Plus le 15 mars.
Alors, je vous parle de volcans. C'est un article de Marie Tison paru dans la presse du 24 février. J'avais commencé en vous parlant du Vésuve, qui est peut-être lui qu'on connaît le mieux. Éruption le 24 août 79. On pense souvent qu'il y a eu énormément d'habitants qui ont péri, mais il y en a 1 000 et il y en a 20 000 quand même qui se sont sauvés à ce moment-là. qui ont été capables d'évacuer. Et on connaît, bien sûr, à cause de Pompéi, d'Herculanum, qu'on peut visiter aujourd'hui, et que c'est fort intéressant comme visite, on en avait parlé. Mais il y a d'autres volcans qui sont aussi intéressants. On a aussi, par exemple, l'Etna, qui est situé en Sicile. Et en octobre 2002, il n'y a eu aucun tremblement de terre, aucune fissure, aucun signe, absolument rien. Et à 4 heures du matin, l'éruption est arrivée.
En 2002?
En 2002. C'est récent quand même. Hein? Mm-hmm. C'est une éruption sérieuse. Hein? La coulée de lave qui s'est échappée d'une fissure sur le flanc du volcan a en particulier détruit le téléphérique qui transportait des visiteurs à 2500 mètres d'altitude. Donc, détruit totalement. La lave n'a toutefois pas menacé les communautés environnantes comme Nicolosi, une petite communauté qui est tout près. Et le volcan s'est calmé, mais il ne s'est pas vraiment endormi, loin
c'était
de là.
C'était juste un éternuement?
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, l'Etna se classe au deuxième rang des volcans les plus actifs au monde, après le Kilauea à Hawaï, qui est continuellement en éruption. Magnifique, d'ailleurs. Et il se fâche pratiquement tous les ans. Et lorsqu'il s'énerve un peu, c'est le cas de le dire, on entend des explosions et on peut voir des projections de gaz, de cendres au sommet et des lueurs rouges la nuit venue. Comme spectacle, c'est magnifique. On en voit parfois à la télé. On demande ça quand il y a des éruptions intéressantes. Mm-hmm. Les autorités interdisent alors, on s'en doute, ils interdisent aux randonneurs de se rendre jusqu'au sommet qui est à 3300 mètres d'altitude. Il est quand même possible de grimper jusqu'à plus ou moins 2900 mètres et de rendre visite à plusieurs cratères secondaires.
Mais j'imagine qu'il faut avoir des guides pour aller là, parce qu'ils doivent connaître les habitudes de.
Il n'est pas obligatoire d'avoir un guide. Mais pour quiconque s'intéresse tant soit peu à la volcanologie, ben, ça vaut l'investissement. Et c'est vrai un peu partout, de tous les sites qu'on visite, d'avoir des guides. Et on recueille plein d'informations. Et lorsque vous grimpez jusqu'au sommet, vous allez apercevoir toutes sortes de couleurs éclatantes en raison de la composition du sol. Vous avez du noir, ça c'est la silice, du rouge, du jaune pour le soufre, mm-hmm. Du blanc pour le calcium. Donc c'est très coloré autour du volcan. Alors on peut visiter des coins et des recoins peu fréquentés, avec un guide particulièrement. C'est ainsi qu'un guide entraîne son groupe sous terre dans la fissure d'où a émergé la fameuse coulée de lave de 2002-2003.
C'est pas si c'est un peu téméraire, hein?
Oui.
Non, ça devient intéressant.
Oui,
c'est
vraiment.
Oui, c'est très intéressant à visiter. La randonnée se poursuit vers la vallée d'El Borvé. Et c'est un ancien conte qui s'est effondré il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et qui a formé une dépression de 5 km de diamètre et qui est profonde de 1000 mètres. Bon, c'est préférable quand même d'être accompagné d'un guide. Hein?
C'est préférable.
Oui, j'imagine.
Hein? Autre volcan intéressant, c'est le Stromboli. Stromboli, c'est le nom de l'île et le nom du volcan. C'est l'une des îles éoliennes au nord de la Sicile. Le feu d'artifice, et ça, c'est la spécialité du Stromboli. Depuis 3000 ans, le volcan éjecte une lave incandescente de façon régulière. Spectacle superbe, on s'en doute. Hein? Là, particulièrement la nuit, lorsque la nuit est belle, lorsque la nuit est claire. Mais il est plus intéressant, plus chouette, si on veut, de faire l'ascension du volcan pour parvenir au sommet, au bord du cratère, au coucher du soleil. Depuis un glissement de terrain en 2002 et des explosions en 2003-2007, l'accès à la partie supérieure est réglementé. Et ça nécessite, cette fois-ci, la présence d'un guide. Et l'excursion au sommet demeure cependant tributaire de l'activité du Stromboli. Si elle est trop violente, ben c'est évident qu'il faut rester, plus bas. Hein? La lave glisse parfois jusqu'à la mer. Et ça aussi, c'est un spectacle particulier le soir.
Ça doit.
Lorsque la lave arrive dans la mer. Lorsque le volcan est tranquille, on peut y voir des gambader des chèvres alentour, des chèvres de montagne. Et c'est une très jolie randonnée à travers.
On se fait tout un cinéma, là.
Oui, absolument. Vous avez les fleurs sauvages aussi qui poussent sur les flancs du volcan. et on peut entendre les explosions en haut, puis une sorte de sifflement qui rappelle un petit peu le vol d'un avion. Ben, idéalement, il faudrait passer 2 nuits dans l'île de Stromboli pour être sûr de son coup. Et de toute façon, le petit village de 500 habitants aux maisons de blinc éclatant et particulièrement intéressant et reposant. Je vous parlerai un peu plus tard d'un autre volcan qui a fait l'objet d'une certaine querelle entre Anna Magnani et Ingrid Bergman. En fait, Ingrid Bergman avait communiqué avec Roberto Rossellini pour tourner un film. Elle ne le connaissait pas. Ils ont tourné ensemble, ils ont décidé d'aller tourner un film qui s'appelait Stromboli. Alors, Anna Magnani, qui était l'épouse de Roberto Rossellini à l'époque, n'a pas beaucoup apprécié. Elle craignait Ingrid Bergman. Donc, elle a décidé de communiquer avec un réalisateur américain et elle a tourné un film qui s'appelle Vulcano. Et ça a fait la guerre des volcans.
La guerre des volcans.
Je vous parlais dans une brève tout à l'heure, brièvement, de Vulcano, un autre volcan. C'est Marie Tison qui nous parlait de ces volcans dans la presse du 14 février.
Quelle belle chanson. Mm-hmm. Alors, elle s'intitule « Les enfants de la terre » de Jean-François Nicolaï. Et je ne sais pas si vous avez fait attention aux paroles, mais à un moment notamment, ils disent, ils chantent « On ne veut pas la fin du monde ». Et mon article va suivre justement pour éviter la fin du monde parce qu'il s'intitule « La surmortalité de la forêt amazonienne qui diminue fortement son rôle de puits de carbone ». C'est un article qui a été publié, qui est extrait de Notre Planète Info Actualité, du 20 mars 2015, et dont l'auteur est Christophe Magdalène. Alors, ce qui est écrit dans l'article, c'est que, c'est dramatique, hein, l'Amazonie est en train de perdre sa capacité à absorber le carbone atmosphérique. On a souvent considéré que c'était le poumon de la Terre, n'est-ce pas? Et c'est ce que révèlent les résultats d'une étude publiée le 19 mars dans le journal Nature. Ces résultats, ils sont issus d'un inventaire de très grande envergure, puisque l'étude a été entreprise pendant 30 années sur une étude de la forêt tropicale d'Amérique du Sud. Alors, une description un petit peu de cette forêt amazonienne. Elle couvre 6 millions de kilomètres carrés. Elle couvre aussi 10 fois la superficie de la France et elle s'étend sur 9 pays. Le Brésil, c'est la plus grande partie qu'elle recouvre. Les territoires en Bolivie, en Équateur, Colombie, Pérou, Venezuela, Guyane. Bref, ce sont encore des pays qui sont couverts de forêts amazoniennes.
On parle du poumon de la Terre.
Oui, on parle du poumon de la Terre, exactement. Mais justement, là, sa surmortalité fait que le poumon risque d'être un peu moins efficace. Et donc, l'Amazonie, elle contient en plus 1/5 de toutes les espèces connues sur la Terre. C'est incroyable, hein?
Oui.
Et sur 390 milliards d'arbres qui stockent 1/5 de carbone contenu dans toute la biomasse terrestre. L'Amazonie, elle abrite aussi plusieurs millions d'habitants et la vapeur d'eau produite par la forêt amazonienne soutient l'agriculture plus au sud, avec notamment des cultures de biocarburant qui alimentent les réservoirs des voitures du Brésil.
Biocarburant, qu'est-ce que c'est qu'un biocarburant?
Bon, alors là, je me suis posé la question aussi, merci de la poser, Michel, parce que ce n'est pas écrit dans le texte, alors je vais chercher, je vais vous donner la réponse. Un biocarburant, c'est un agrocarburant ou un agrocarburant, et c'est un carburant qui est produit à partir de matériaux organiques non fossiles provenant de la biomasse. La biomasse, c'est un ensemble des matières organiques d'origine végétale.
Ah bon?
Ça répond à votre question?
Oui.
Par opposition aux énergies fossiles.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai insisté sur le non fossile.
Mmh, c'est ça.
Alors, donc, chaque année, il faut savoir que les forêts amazoniennes, on parle de les forêts amazoniennes, elles recyclent 18 milliards de tonnes de carbone, soit plus de 2 fois la quantité émise par la combustion d'énergie fossile dans le monde. L'énergie, l'équilibre, donc, évidemment, carbone de l'Amazone est une question de vie ou de mort. Les arbres vivants prélèvent du dioxyde de carbone dans l'air pour se développer et les arbres morts libèrent des gaz à effet de serre, dont du méthane, en se décomposant. Jusqu'à maintenant, lors des décennies passées, la forêt amazonienne, elle a joué le rôle de puits de carbone atmosphérique en absorbant plus de carbone qu'elle n'en rejette. Donc, elle agit un petit peu comme un tampon et elle a limité l'impact du réchauffement global. Mais maintenant, la nouvelle analyse démontre que le taux de mortalité des arbres a augmenté de plus d'un tiers depuis le milieu des années 80. Et cela altère la capacité de l'Amazonie à stocker du carbone.
Et comment les chercheurs expliquent-ils cette situation?
Alors oui, ça c'est toute une question parce qu'ils expliquent qu'en fait, l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est l'un des composants clés pour la photosynthèse, elle a initialement boosté la croissance des arbres en augmentant la capacité de stockage de CO2. Mais un changement de régime semble être proche et pourrait avoir des conséquences inattendues. La conclusion, c'est qu'avec le temps, la stimulation de croissance impacte le système, donc les arbres vivent plus vite, mais ils meurent plus longtemps. Parce que des sécheresses importantes ont été constatées en Amazonie, des températures anormalement élevées, et qui peuvent aussi jouer un rôle dans cette observation. Donc l'étude, elle démontre que l'augmentation de la mortalité a commencé bien avant la grande sécheresse de 2005, et aussi que les événements qui ont, de 2005 à 2010 ont conduit à la mort de millions d'arbres. Donc, la forêt amazonienne, elle ne suffit plus à compenser les émissions fossiles de l'Amérique du Sud.
C'est inquiétant, ça.
Oui, c'est très, très inquiétant. Hein? Et donc, l'article publié dans Nature montre comment l'intensité du puits de carbone a décliné en Amazonie de manière concomitante avec l'accélération de la mortalité. D'un pic de 2 milliards de tonnes de dioxyde stockées annuellement dans les années 90, le stockage net a diminué de moitié. Donc, c'est assez, assez gravissime. Hein? Alors, évidemment, ce qu'il faut faire, et là, la chanson le disait tout à l'heure, il faut agir pour réduire les émissions afin de stabiliser notre climat. L'étude donc, que je viens de vous présenter, elle a été la plus vaste menée à l'heure actuelle et elle a impliqué plus d'une centaine de chercheurs. Donc, ils ont examiné 200 000 arbres et ont enregistré la croissance et la mort de chacun d'eux depuis les années 1980. Partout sur Terre, même les forêts intactes changent. Elles nous rendent un énorme service et nous ne pouvons plus compter seulement sur elles pour résoudre le problème du carbone. C'était un article tiré de Notre Planète Info et écrit par Christophe Magdalène.
Alors, je vais parler de différents volcans, de Vésuve, de l'Etna, du Stromboli. En passant, l'Etna, il y a une très jolie petite place qui s'appelle Taormina, très, très jolie à visiter. Et je vous parlais aussi de la guerre des volcans. Ça fait l'objet d'un livre, « La guerre des volcans », Ingrid Bergman, Anna McNanny, hein. C'est par Bernard Simonet. Et le Stromboli, le Vulcano plutôt, dont je ne vous ai pas parlé, et on peut faire une belle... une brève escale dans l'île de Vulcano. Et bien, son nom le suggère, Vulcano, c'est à son propre volcan, qui est actif et aussi facile d'accès. En 3 heures, on a le temps de partir du port et de marcher, de monter au sommet, en passant dans la cendre, de faire le tour du cratère et de revenir au point de départ. 3 heures. Il n'y a pas de feu d'artifice comme dans les volcans dont je vous ai parlé précédemment, mais il y a une vue superbe sur les îles éoliennes et un fabuleux spectacle de fumerolles aussi. Et il faut les contourner parce que c'est brûlant et c'est aussi toxique. Mais une jolie visite à faire pour le tour des volcans.
Ah oui.
Alors, c'est bientôt Pâques. Des cocos à la pelle pour Pâques. Alors, c'est comme des courtes phases sur les animaux qui pondent des œufs. L'esturgeon noir, le poisson roi du caviar, peut pondre de 500 000 à 3 700 000 œufs. Plus la femelle est grosse, plus la production sera abondante. Parmi nos tortues d'eau douce, la tortue serpentine bat le record du nombre d'œufs pondus, de 20 à 40 en moyenne, mais on en a déjà compté plus d'une centaine. Et une dernière, à la fin de leur vie, les reines fourmis auront pondu plusieurs dizaines de milliers d'œufs, parfois même quelques millions, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 35 millions d'œufs de certains termites. Heureusement que seules les reines sont fécondes.
Il y a un chat qui s'appelle Bart, qui est sorti de sa tombe après 5 jours. C'est zombie ou miraculé? Ben, le chat américain Bart est en quitte pour une bonne peur. Hein? Il est sorti de sa tombe 5 jours après avoir été enterré par erreur, on l'espère, par son propriétaire. Il croyait que le félin avait été tué dans un accident de voiture. Plusieurs interventions chirurgicales. Il est présent en convalescence, puis il devrait retourner auprès de son maître. Ben, voilà, c'était Bart. Et cette petite brève nous amène à la conclusion. Alors, merci de nous avoir été fidèles. Merci d'être avec nous. Ben, écrivez-nous, hein, canalm.org. Donnez-vous de vos nouvelles. Et je remercie André et Étienne.
Ça m'a fait plaisir.
Et Marie Lalonde d'être
plaisir
avec
aussi.
Nous. Alors, aussi, ben, je remercie bien sûr Jean-Sébastien Laliberté, sa mise en onde et à son sourire qui est toujours présent. Alors, on vous souhaite une très bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.